Vous écoutez On lit pour vous.
« 25 ans, une bascule. Pourquoi les cellules CAR-T pourraient changer durablement l'histoire du cancer? » Un texte de Véronique Molina, paru le 18 juillet 2026 dans Futura Science. Et si l'on ne combattait plus le cancer directement, mais en transformant nos propres cellules immunitaires en chasseurs de tumeurs? Les thérapies CAR-T ont déjà permis des rémissions spectaculaires chez des patients condamnés à court terme et ouvrent aujourd'hui la voie à une nouvelle génération de traitements contre les cancers du sang et peut-être demain contre les tumeurs solides. Une révolution médicale qui pourrait changer durablement l'histoire de la cancérologie. C'est une découverte majeure qui ouvre un nouveau chapitre de la cancérologie, un moyen complètement nouveau de traiter le cancer. L'idée est très simple. Transformer certaines cellules de notre système immunitaire, les lymphocytes T, en véritables killers de cellules cancéreuses. Le nom de ces cellules guerrières, CAR-T, pour Chimeric Antigenic Receptor-T. Avec ce traitement révolutionnaire, il ne s'agit plus de cibler les cellules cancéreuses, comme le font la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie, mais les cellules immunitaires pour les activer afin qu'elles détruisent naturellement les cellules cancéreuses. Une excellente nouvelle pour la lutte contre une maladie qui concerne aujourd'hui près de 4 millions de Français et plus de 430 000 nouvelles personnes chaque année. Doter les lymphocytes de capacités de détection et de destruction high-tech. Habituellement, les lymphocytes T sont des cellules capables de reconnaître et de neutraliser les bactéries et les virus. Ils peuvent aussi détecter des cellules humaines dysfonctionnelles, notamment les cellules cancéreuses. Malheureusement, la plupart du temps, ces dernières possèdent une arme redoutable pour échapper aux lymphocytes. Un système qui, en brouillant le radar des lymphocytes, leur permet de devenir invisibles au système immunitaire. À partir des années 1980, plusieurs équipes de chercheurs vont travailler à l'introduction à la surface des lymphocytes T de structures moléculaires dites chimères, capables à la fois de reconnaître spécifiquement les antigènes des cellules cancéreuses et d'activer les lymphocytes T. Ce sont ces structures moléculaires hybrides associant des éléments d'un anticorps à ceux du récepteur des lymphocytes T qui sont nommés Chimeric Antigenic Receptor, CAR. Elles sont composées d'une tête située à l'extérieur du lymphocyte composée d'un fragment d'anticorps ciblant spécifiquement un antigène de cellule tumorale, d'un ventre, la partie enchâssée dans la membrane des lymphocytes, d'une queue nichée à l'intérieur des cellules ayant pour rôle d'activer les capacités destructrices des lymphocytes. C'est la structure de cette queue qui va occuper les chercheurs à partir du début des années 2000. Car si les premiers essais chez la souris montrent que ces premières cellules CAR-T peuvent reconnaître et détruire des cellules cancéreuses chez la souris, les essais chez l'homme sont en revanche décevants. Les lymphocytes disparaissent quelques semaines après l'injection, sans faire régresser significativement les tumeurs. À la recherche du meilleur booster, l'équipe de l'immunologiste Zelig Eshard de l'Institut Weizmann des sciences en Israël va imaginer, en 2001, la première des deux pièces de la queue appelée CD3 qui a un rôle de co-stimulation. Elle va permettre aux cellules CAR-T, une fois qu'elles ont touché les cellules cancéreuses, de s'activer pour les détruire. Pour que les cellules CAR-T ne meurent pas et soient moins fragiles, Michel Sadelin et son équipe du Memorial Sloan Kettering Cancer Center, MSKCC, à New York, ajoutent, en 2002, un deuxième élément de co-stimulation appelé CD28. En 2004, c'est au tour de Dario Campana de l'hôpital Saint-Jude de Memphis d'en mettre au point un autre qu'il nomme 4-1BB et qui permet une persistance encore plus longue des cellules CAR-T. Quand une de ces deux dernières pièces est greffée sur le récepteur chimérique, les cellules CAR-T peuvent se multiplier et persister suffisamment longtemps pour éliminer les tumeurs. La mise au point des facteurs de co-stimulation permet un tournant décisif. En effet, les récepteurs de deuxième génération offrent aux cellules CAR-T les signaux nécessaires pour survivre, se multiplier et maintenir leur activité antitumorale chez les patients. Des effets bluffants sur les cancers du sang. En 2010, les premiers essais cliniques chez l'homme sont lancés et montrent des rémissions spectaculaires chez des patients atteints de leucémie et de lymphome réfractaire. Les cellules CAR-T se multiplient massivement après leur injection et parviennent à persister plusieurs mois, voire plusieurs années. Aujourd'hui, cette stratégie d'immunothérapie a radicalement transformé la prise en charge de plusieurs cancers du sang. Dans plusieurs cas de leucémie aiguë lymphoblastique, pour certains lymphomes B et pour le myélome multiple, l'approche avec les cellules CAR-T produit aujourd'hui des réponses impressionnantes, y compris chez des patients qui ont déjà bénéficié de traitements lourds. On assiste ainsi à des rémissions prolongées et même des guérisons de patients qui étaient condamnés à court terme. Deux bémols cependant. D'abord, ces thérapies coûtent encore très cher, autour de 300 000 euros en Europe et de 450 000 $ aux États-Unis. Ensuite, il existe des effets indésirables, parfois graves. C'est le cas du syndrome de relargage de cytokines, une inflammation systémique qui peut interférer avec certaines fonctions corporelles de l'organisme, mais que les médecins connaissent et savent désormais prévenir. Le saviez-vous? L'administration d'un traitement à base de cellules CAR-T se fait en plusieurs étapes. On prélève les lymphocytes T du patient par aphérèse. On les envoie dans un laboratoire de production de cellules CAR-T, comme le laboratoire américain Kite, situé à Amsterdam, aux Pays-Bas. À l'aide d'un vecteur viral, le personnel du laboratoire introduit l'ADN du récepteur chimérique, CAR, dans les lymphocytes T. Les cellules immunitaires vont alors produire ces récepteurs conçus pour reconnaître spécifiquement un antigène de la tumeur. Ces récepteurs vont alors s'enchâsser dans la membrane des lymphocytes T. Les cellules CAR-T sont mises en culture in vitro afin qu'elles se multiplient, puis sont renvoyées à l'hôpital où se trouve le patient. Ce dernier va subir une chimio afin d'altérer les défenses immunitaires et de laisser la place aux cellules CAR-T. On lui injecte les cellules CAR-T qui vont détruire les cellules cancéreuses. Vers des applications pour prendre en charge les tumeurs solides. Les scientifiques travaillent aujourd'hui à comprendre comment les cellules CAR-T pourraient être utilisées pour prendre en charge les tumeurs dites « solides », cancer du sein, de la prostate, du cerveau, etc. Mais le chemin est plus ardu que pour les cancers du sang. Pourquoi? D'abord, parce qu'à la différence des cellules cancéreuses du sang, les cellules des tumeurs solides ne sont pas uniformes et n'expriment pas toutes les mêmes cibles à leur surface. Ensuite, les tumeurs solides possèdent leur propre système de défense, signaux immunosuppresseurs, recrutement de cellules freinant l'activité immunitaire, création de barrières physiques empêchant les lymphocytes de circuler dans la masse tumorale, qui rend difficile l'accès des cellules CAR-T aux cellules cancéreuses. Enfin, les protéines cibles intéressantes sont aussi exprimées, au moins en partie, dans certains tissus sains, ce qui expose les patients à un risque de toxicité. Les pistes de recherche s'orientent donc vers le recours à des injections locales ou répétées, le ciblage de plusieurs antigènes à la fois, l'association à d'autres immunothérapies. Mais les premiers résultats publiés en 2024 dans New England Journal of Medicine sont là, puisqu'une étude de phase 1 a montré l'efficacité assez spectaculaire de cellules CAR-T bivalentes sur le glioblastome, un cancer du cerveau fréquent et difficile à traiter en cas de rechute. Et un autre essai clinique, publié dans The Lancet en 2025, a mis en évidence des effets positifs des cellules CAR-T sur certains cancers de l'estomac et de la jonction gastro-œsophagienne. Des résultats prometteurs, donc, mais qui doivent encore franchir l'étape de la démonstration d'une efficacité durable et reproductible. L'aventure ne fait que commencer. À retenir, 1. Les cellules CAR-T sont des lymphocytes T génétiquement modifiés capables de reconnaître spécifiquement les cellules cancéreuses et de les détruire. 2. Cette approche cible le système immunitaire plutôt que la tumeur elle-même. Une stratégie radicalement différente de la chirurgie, de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. 3. Les résultats sont déjà majeurs dans plusieurs cancers du sang, leucémie aiguë, lymphome B et myélome multiple montrent des rémissions prolongées parfois assimilées à des guérisons. 4. Des limites importantes subsistent. Le coût reste très élevé et certains effets indésirables, comme le syndrome de relargage de cytokines, nécessitent une surveillance spécialisée. C'était 25 ans, une bascule. Pourquoi les cellules CAR-T pourraient changer durablement l'histoire du cancer? Un texte de Véronique Molena, paru le 18 juillet 2026 dans Futura Science.
Pionnières québécoises et canadiennes en sciences, un texte de Farid Abad et Gabriel Sirois, paru le 9 février 2026 dans BANQ. L'histoire des femmes en sciences au Québec et au Canada est marquée par des avancées audacieuses, mais aussi par de profondes injustices. Retracer leur trajectoire, depuis les salles de classe des Ursulines jusqu'au laboratoire universitaire et aux grandes découvertes du XXe siècle, permet de redonner leur place à celles dont l'héritage essentiel est trop souvent relégué dans l'ombre. Les Ursulines et les débuts de l'éducation scientifique féminine. Émergeant de ce que l'on pourrait appeler une grande noirceur en matière d'éducation scientifique féminine, les Ursulines de Québec se distinguent dès le 19e siècle par une volonté résolue d'affranchir les femmes des normes patriarcales et des rôles sociaux genrés. Entre l'arrivée des premières maîtresses de sciences en 1800 et l'adoption du cours classique pour les filles en 1936, les jeunes pensionnaires du monastère bénéficient d'un enseignement étonnamment avant-gardiste. Astronomie, physique, chimie, botanique, zoologie, minéralogie et géologie y sont enseignés. Ces nouveaux cours ont pour but d'attirer les élites francophones et anglophones, mais aussi de nourrir la curiosité intellectuelle des élèves et de leur offrir une formation pratique et solide, quoique encore modeste. Cette ouverture s'inscrit dans un contexte de rivalité éducative. Soucieuse d'éviter l'exode des élèves vers les institutions anglo-protestantes, les Ursulines, appuyées par l'évêque de Québec, s'inspirent activement des modèles les plus reconnus d'Europe et d'Amérique, où les leçons de science occupent déjà une place de choix dans l'éducation des filles. McGill est l'ouverture progressive des études supérieures. Pendant que les Ursulines innovent dans l'enseignement primaire et secondaire, une autre avancée majeure se produit au niveau universitaire. Dès 1884, l'Université McGill admet des femmes à sa faculté des arts, devenant ainsi un lieu phare de l'émancipation intellectuelle au Canada. Le généreux don du philanthrope Sir Donald A. Smith permet l'ouverture d'un programme de baccalauréat spécifiquement destiné aux femmes, qui étudiaient alors séparées des hommes, conformément aux mœurs de l'époque. En 1888, la première cohorte de diplômés, les Donaldas, marque un tournant dans l'histoire universitaire québécoise. Leur succès ouvre la voie à la création du Royal Victoria College, inauguré en 1899, qui offre enfin aux femmes un lieu de résidence et de formation, renforçant ainsi leur accès aux études supérieures. Les pionnières face au système scientifique. Si l'accès à la formation s'améliore, le travail scientifique des femmes demeure longtemps invisible. L'histoire québécoise regorge de chercheuses brillantes dont le parcours est freiné par les attentes sociales et une série d'obstacles institutionnels. Des figures comme Harriet Brooks, pionnière de la radioactivité et première à identifier l'émanation, aujourd'hui appelée radon, ou Maud E. Abbott, devenue une pathologiste de renommée internationale malgré le refus initial de McGill à l'admettre en médecine, illustrent bien le paradoxe de l'époque. Elles avaient un talent exceptionnel et ont fait des contributions majeures, mais leurs carrières sont restées limitées par les normes de genre de leur temps. Les pressions liées au mariage, les postes subalternes imposés malgré l'excellence, ou même les contraintes matérielles absurdes, comme un galvanomètre, un appareil servant à mesurer l'intensité d'un courant électrique, perturbé par les tiges métalliques d'un corset, montre combien la pratique scientifique était semée d'embûches pour les femmes. Même une fois l'admission obtenue, les frais de scolarité payés et les examens réussis, il était difficile pour les femmes d'obtenir leur diplôme. Notons le cas particulier de Rose Hébert, l'une des premières chirurgiennes dentistes, qui a dû faire appel aux instances supérieures pour obtenir la reconnaissance officielle de son droit de pratiquer. L'effet Mathilda. Malgré ces entraves, plusieurs Canadiennes et Québécoises marquent profondément l'histoire scientifique. Leur reconnaissance tardive témoigne d'un phénomène plus large, l'effet Mathilda, nommé d'après la suffragette et écrivaine américaine Mathilda Jocelyn Gage, qui dénonçait déjà au XIXe siècle l'effacement des contributions scientifiques des femmes. Cet effet désigne la tendance systémique à minimiser ou effacer les contributions des femmes, souvent au profit de leurs collègues masculins. Ce processus d'invisibilisation rappelle que l'enjeu n'est pas seulement l'accès aux carrières scientifiques, mais aussi la place qu'occupent les contributions féminines dans la mémoire collective et dans l'histoire des sciences. Quelques figures scientifiques québécoises et canadiennes. Irma Levasseur, 1877-1964. Née à Québec en 1877, Irma Levasseur se heurte dès son jeune âge aux barrières imposées aux femmes, alors exclues des études universitaires et de la médecine. Refusée au Québec, elle part étudier à l'Université du Minnesota, où elle obtient son diplôme de médecine en 1900, avant d'exercer à New York auprès de la docteur Mary Putnam Jacoby. En 1903, après avoir plaidé sa cause à l'Assemblée législative, elle devient la première femme médecin canadienne-française. Animée par une vocation profonde pour la santé des enfants, elle constate les conditions tragiques dans lesquelles vivent les familles pauvres au début du XXe siècle. Mortalité infantile alarmante, maladies infectieuses et absence d'hôpitaux francophones pour enfants. Déterminée, elle contribue à la fondation de l'hôpital Sainte-Justine en 1907, mais le quitte en raison de conflits internes. Elle est évincée du conseil d'administration et reléguée sous l'autorité des professeurs de médecine de l'Université Laval, qui n'admettaient pas les femmes. La docteure Levasseur poursuit sa mission aux États-Unis et en Europe, entre autres en Serbie pendant la Première Guerre mondiale, puis à New York pour la Croix-Rouge. De retour définitivement à Québec en 1922, elle y fonde l'hôpital de l'Enfant Jésus, puis l'hôpital des enfants malades. Un manque de fonds force la fermeture de ce dernier quelques années plus tard. Sensible à la souffrance des enfants handicapés, Irma Levasseur fonde en 1935 l'école Cardinal Villeneuve grâce au soutien de la Ligue de la jeunesse féminine. Malgré ses réalisations majeures, son manque de sens politique et administratif lui vaut d'être écartée de plusieurs institutions et elle termine sa vie dans la pauvreté et l'oubli après avoir été internée injustement pendant 8 mois à l'hôpital Saint-Michel-Archange. Décédée en 1964, Irma Levasseur est désormais reconnue comme une pionnière de la pédiatrie québécoise. Dans les années 1980, plusieurs lieux et distinctions portent son nom et en 2019, elle est officiellement désignée personnage historique du Québec, ce qui réaffirme l'importance de son œuvre fondatrice dans l'histoire de la médecine infantile. Maud E. Abbott, 1868-1940. L'une des premières femmes diplômées de l'Université McGill, Maud E. Abbott, obtient son baccalauréat en 1890. Refusée à la faculté de médecine en raison de son genre, elle y deviendra pourtant professeure et conservatrice du musée médical. Médecin et pathologiste de renommée internationale, elle se distingue par ses travaux sur les malformations cardiaques congénitales. Son Atlas of Congenital Cardiac Disease, publié en 1936, demeure une référence encore citée aujourd'hui. Frances Oldham Kelsey, 1914-2015. Frances Oldham Kelsey, diplômée en sciences de McGill en 1934, puis titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en pharmacologie de l'Université de Chicago, a rapidement démontré son talent malgré les préjugés liés à son genre. Après avoir travaillé sur des médicaments synthétiques contre la malaria, enseigné, obtenu un diplôme de médecine, s'être mariée et avoir eu 2 filles, elle s'installe à Washington en 1960 pour joindre la Food and Drug Administration. On lui confie l'étude de la thalidomide, présentée comme un somnifère inoffensif, utilisé notamment par les femmes enceintes contre les nausées matinales. Ce médicament soulève chez elle des inquiétudes. Après 2 ans d'opposition à la compagnie pharmaceutique William S. Murrell, elle en refuse l'homologation aux États-Unis. Sa vigilance sauve ainsi des milliers d'enfants américains de graves malformations congénitales causées par le médicament en Europe et au Canada. Honorée par le président des États-Unis, John F. Kennedy, pour son jugement exceptionnel, Kelsey deviendra membre de l'Ordre du Canada. Une école de Colombie-Britannique porte aujourd'hui son nom. Elsie McGill, 1905-1980. Première ingénieure aéronautique canadienne, Elsie McGill conçoit notamment un avion adapté aux conditions hivernales. Surnommée la Reine des Ouragans pour son rôle essentiel dans la production des Hawker Hurricane durant la Seconde Guerre mondiale, elle est aussi une féministe engagée qui milite activement pour le droit des femmes. Elle conçoit le Maple Leaf Trainer, premier avion entièrement conçu par une femme, et devient une figure incontournable de l'industrie aérospatiale canadienne comme du mouvement pour l'égalité. Héroïne nationale, elle est intronisée au Panthéon canadien des sciences et du génie en 1992. De l'audace pédagogique des Ursulines à l'ouverture graduelle des études supérieures, l'histoire des femmes en sciences au Québec et au Canada, marquée par des fractures, n'est pas linéaire. Raconter la vie des pionnières est un acte de justice historique. Leur mémoire se transmet par des distinctions, des lieux qui portent leur nom, ainsi que par des livres, des films et des expositions qui rendent enfin visibles leurs contributions. C'était Pionnières québécoises et canadiennes en sciences, un texte de Farida Bad et Gabrielle Sirois, paru le 9 février 2026 dans BANQ.
Pieuvres, crabes et homards, des animaux sensibles. Un texte de la rédaction paru le 5 décembre 2021 dans Québec Science. la Grande-Bretagne vient d'inclure dans ses lois que certains invertébrés puissent souffrir, être malheureux, tristes ou joyeux. Un homard souffre-t-il quand on le met dans l'eau bouillante? De plus en plus d'études scientifiques font pencher la balance vers le oui. Si bien qu'au Royaume-Uni, les homards, mais aussi les pieuvres et les crabes, sont maintenant officiellement reconnus comme des êtres doués de sensibilité. En d'autres mots, la loi admet que ces animaux éprouvent des sentiments. Pas seulement la douleur, mais aussi le plaisir, la faim, la joie, le confort, la colère ou encore l'excitation, tout comme ton chat ou ton chien. Cette décision fait suite à la publication d'une étude indépendante publiée par la London School of Economics, une université britannique. Dans leur rapport, les auteurs ont développé 8 critères afin d'explorer la sensation de douleur chez les animaux invertébrés. Ils ont ensuite passé en revue les résultats de plus de 300 articles scientifiques. De là, les auteurs ont établi qu'il existe des preuves très solides que les céphalopodes, pieuvres, calmars, sèches, sont des animaux sensibles. Pour les crustacés décapodes, dont font partie les crabes et les homards, les preuves sont considérées comme solides. Au niveau mondial, il existe des lois contre la cruauté animale qui obligent par exemple à abattre les animaux d'élevage selon des conditions qui limitent leur souffrance. Les invertébrés sont toutefois souvent exclus de ces lois. Pourtant, l'intelligence des céphalopodes égale, voire surpasse, celle de certains vertébrés. Par exemple, la pieuvre possède 50 millions de neurones, soit environ autant qu'un chien ou un chat. Ces animaux ne cessent d'étonner les chercheurs. Ils peuvent se camoufler et communiquer en changeant de couleur, anticiper, apprendre, se rappeler. Concrètement, le fait de reconnaître ces invertébrés comme sensibles permettra de mieux réguler les activités qui affectent le bien-être de ces animaux dans le futur. Par exemple, les auteurs recommandent d'interdire la vente de ces animaux à des personnes non qualifiées lorsqu'ils sont encore vivants et de considérer des techniques d'abattage plus humaines. Alors qu'en Suisse, il est déjà interdit de faire bouillir un homard vivant, le Québec traîne un peu la patte en matière de bien-être animal. Ce n'est que depuis 2015 que les animaux de compagnie, chiens, chats, poules, sont considérés par la province comme des êtres dotés de sensibilité. Avant, légalement, ils étaient de simples biens meubles. C'était pieuvres, crabes et homards, des animaux sensibles. Un texte de la rédaction paru le 5 décembre 2021 dans Québec Science.